Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel. Marc Roche, vous publiez aux éditions Albin Michel un livre que je ne sais pas encore vraiment qualifier, mais nous allons, au cours de cette interview, essayer de qualifier ce qu'il est, qui s'intitule « Un ménage à trois ». Alors, pour l'intituler, j'hésite entre « Histoire d'amour », une étude sociologique de l'Angleterre des trois dernières décennies, un drame shakespearien, une tragédie, une tragicomédie. Donc on va essayer, si vous voulez bien, d'aller explorer ce qu'est ce ménage à trois qui réunit le prince Charles, son épouse Diana et sa deuxième épouse Camilla, que tout le monde connaît. Alors dites-moi, d'après vous, qu'est-ce que vous avez écrit ?
Je crois que vous avez très bien résumé mon livre. C'est une synthèse entre, d'une part, une merveilleuse histoire d'amour sur 34 ans, qui a tous les composants de la tragédie et de la comédie shakespearienne, qui est quand même imbibe l'Angleterre, et de ma propre expérience de correspondant à Londres du Monde, avant cela du soir, pendant plus de 20 ans, et de ma connaissance d'un milieu très fermé, qui est celui de la grande aristocratie anglaise. Un milieu qui vit en marge, mais qui prospère, qui est très puissant, mais en marge de la société britannique que vous connaissez, que tout le monde connaît, qui est la société multiculturelle, créatrice, entrepreneuriale, londonienne, bancaire, touristique, cosmopolite. Cette société qui est champêtre, protestante, blanche, est celle dans laquelle se déroule cet incroyable ménage à trois.
Alors, l'histoire d'amour, c'est celle qui unit Charles et Camilla. On est bien d'accord que ce n'est pas l'histoire d'amour qui unit Charles et Diana.
Contrairement à l'image qu'on a eue en 1980, lors du mariage de Charles et Diana, il n'y a jamais eu d'histoire d'amour entre Charles et la princesse de Galles. C'était un mariage arrangé par la grand-mère de Charles, la reine-mère, et sa meilleure amie, qui était sa dame de compagnie, Lady Formoy, qui est elle-même la grand-mère de Diana, arrangée par la reine et le duc d'Édimbourg, qui s'inquiétait du célibat prolongé de Charles, et arrangée par Charles lui-même, qui voulait continuer sa relation avec Camilla, tout en prenant femme, qui allait lui donner un héritier, une roue de secours, et l'aider dans ses fonctions de représentation.
Alors, fonction de représentation, un des épisodes de votre livre raconte combien, après son mariage avec Diana, il a souffert du fait que la représentation s'orientait davantage sur Diana, qui accaparait les photographes, la presse mondaine, y compris une photo où on le voit, lui, flou à l'arrière-plan, et elle, nette à l'avant-plan, alors qu'il se déteste cordialement.
L'un des grands génies de Diana, qui n'était pas une fille intelligente, qui n'était pas une fille futée, qui ne connaissait rien à la vie, qui n'avait pas rencontré d'homme avant le prince Charles.
Et parce qu'il faut être vierge pour épouser un futur
vierge,
roi.
Virginité certifiée par le docteur Pinker, le médecin de la reine.
Et c'est ce qu'on découvre dans votre livre, qui est parmi les choses ahurissantes.
William devait à nouveau être soumis à cette condition avant de rencontrer quelqu'un, restera célibataire à jamais. Mais il faut se remettre dans le contexte des années 70. Donc, on aime Diana, meurtrie, son rêve de quasi à la Barbara Cartland, d'un prince charmant, s'effondre, accès de boulimie, et elle est misérable. Et puis, à partir de 85, la relation reprend entre Charles et Camilla. C'est Diana, avant son mariage, à l'inverse du prince Charles, était grande consommatrice de la presse populaire. Elle lisait Le Sun tous les matins, elle lisait, au début des années 80, tous les nouveaux magazines glamour qui arrivaient sur le marché, OK, Hello, et ainsi de suite. Elle a senti que là, elle avait son art. Mais c'est intuitif, elle n'est pas assez intelligente ou assez manipulatrice au départ pour comprendre cette arme médiatique, mais elle va l'utiliser. Alors que le palais, lui, ne s'intéresse pas à la presse populaire. il est encore cantonné au Daily Telegraph, le journal de l'establishment, au Guardian, à la BBC, à tout ce qui est officiel et qui respecte la monarchie. Elle a compris le grand changement dans la presse populaire, l'arrivée du magnat australien Rupert Murdoch, qui en 1980 rachète le Times, le Sunday Times, le Sun, le News of the World, 40% de la diffusion de la presse nationale britannique, et le Daily Mail, un titre qui devient le porte-étendard des femmes modernes, titre conservateur, style Diana, 2,5 millions d'exemplaires. Donc vous arrivez quasi à deux tiers du tirage de la presse populaire, Diana va la mettre dans son camp. Et ça, le prince Charles ne va jamais comprendre ce qui lui arrive. Alors, de là, elle commence à l'éclipser dans la presse, boule de neige, le phénomène Diana démarre, Charles devient un personnage de second rang, il ne s'en remettra jamais.
Oui, contrairement à John Kennedy qui lui disait « Je suis ma femme », il disait ça avec admiration en parlant de Jackie Kennedy, lui disait « Je ne fais que porter les fleurs ou les valises ou les documents de ma femme ». Il disait ça avec beaucoup d'amertume.
Extrêmement d'amertume parce que c'est un homme qui est peu sûr de lui, qui a été dépourvu de tendresse maternelle et paternelle dans sa jeunesse, qui a souffert d'avoir été envoyé à Gordonstone, un pensionnat très rude, et ensuite la Navy n'était pas fait pour ça, mais était plutôt artistique, écologique. Et donc cet homme a ce rabat sur ce qu'il connaît le mieux, à savoir son rôle de prince de Galles. Il ne faut pas oublier que le prince Charles n'a pas connu une vie en dehors du palais, à l'inverse de Diana, qui a vécu avec des copines à Earl's Court. Lui, tout ce qu'il a connu, c'est protocole serviteur, respect, baise-main à sa mère et représentation et à l'étranger et au Royaume-Uni et service militaire et toutes ces choses. Et donc pour lui, il ne comprend pas que lui, l'héritier au trône, symbole de la légitimité d'une dynastie millénaire, est éclipsé par une idiote.
En plus, éclipsé dans des magazines populaires, dans tout ce qu'il méprise, parce qu'on voit qu'il y a un fossé culturel entre Diana et son mari et le prince Charles, notamment lorsqu'on voit de l'intérieur, grâce à la façon dont vous le racontez, la vie quotidienne, que ce soit à Buckingham ou dans d'autres palais, où ils ne sont jamais seuls, ils sont toujours avec une armée de domestiques qui fait tout. Et il y a cette scène qui est aussi, moi c'est le mot ahurissant qui est revenu souvent au cours de ma lecture, où Diana, fâchée contre Charles, lui dit « Je veux que tu me serves une tasse de thé », et il lui répond « Mais tu n'as qu'à appuyer sur la sonnette qui est là et tu auras 10 personnes qui viendront le faire à ta place ». C'est une souffrance que l'on partage avec cette pauvre Diana.
Je crois qu'en Belgique, on est habitué à une monarchie plutôt couleur muraille, une monarchie réduite aux aquets. La monarchie britannique, c'est très différent. Vous savez, Buckingham Palace emploie 800 personnes. Et surtout à l'époque, maintenant ça a changé grâce à l'Internet, mais pour amener un message, pour que Charles voie sa mère, il doit prendre rendez-vous. Il doit envoyer un pli à un valet qui va le donner à un autre valet, à un troisième valet qui va aller au quatrième valet pour le remettre à la dame de compagnie de la reine ou au valet principal. C'est un monde très hiérarchisé et Diana, femme moderne, étouffe là-dedans. D'autant plus que le prince Charles est d'abord un diplômé de l'université, c'est le premier prince de Galles qui était à l'université à Cambridge, qu'il est entouré de gourous, puisque c'est un homme peu sûr de lui, qui a besoin, surtout dans cette période des années 80, où il se cherche, notamment en matière caritative, en matière écologiste, en matière architecturale, entouré des gourous les plus divers, qui ont 20-30 ans de plus que lui, puisqu'il a une espèce de complexe qui veut qu'il s'entoure d'hommes âgés. C'était Lord Mountbatten, son grand-oncle, qui a été tué par l'IRA. C'était ensuite Sir Laurent Vanderpost, le philosophe.
Oui, vous évoquez ce nom-là. Alors j'ai fait une petite recherche pour cet homme qui est un gourou, qui a écrit 2 livres dans sa vie. C'est quoi ces livres, en 2 mots?
C'est le Kalahari, c'est le retour au peuple primitif, c'est une vie plus simple. Les médecines naturelles, la méditation au lieu de société de consommation, tout ce qui est Dhyana. Et elle déteste Laurent Van Der Post, c'est un vieux schnook pour elle, d'abord, et ensuite elle ne comprend rien à ce qu'il dit, et son mari passe le voyage de noces à lire les recueils de Van Der Post et dit à Dhyana, que penses-tu du Kalahari? Et elle, tout ça, ça lui passe. Si elle s'intéresse à la mode, elle s'intéresse aux musicaux, elle s'intéresse aux pop stars et aux célébrités.
Alors que lui écoute de l'opéra, écoute Wagner pendant qu'elle écoute Dire Straits ou d'autres groupes dont Charles n'a même jamais entendu parler.
Absolument, et on voit cette scène incroyable lors du concert Live Aid. Charles arrive en cravate en 1985 pour l'Éthiopie, le grand concert Bob Geldof. Lui, il arrive en cravate, coincé, alors qu'elle et ne bouge pas et s'ennuie à mourir. Et elle est animée, elle apprécie le concert, c'est tous des groupes qu'elle connaît.
Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur avant le mariage, parce que une des choses dont je me suis rendu compte à travers ce livre, et que peut-être les photographies ne montraient pas, tellement tout était apprêté, c'est le fait que Dhyana était une jeune fille, elle avait 18 ans, elle n'avait vécu finalement que dans un monde de Barbara Cartland, qui est sa belle-mère. Et donc c'est un monde de rêve qui s'est fracassé en un cauchemar. C'est un peu ça que vous racontez.
Absolument. Il faut comprendre, cette jeune fille, alors, elle a tout pour être princesse de Galles. C'est la plus haute aristocratie du royaume. Meilleure aristocratie que les Windsor.
Plus ancienne.
Les Spencer, plus anciennes, il n'y a pas d'origine allemande, là. C'est des purs anglais, les Spencer. Donc, superbe aristocratie. Elle n'a aucune formation professionnelle. C'est excellent, c'est ce qu'on demande à la future princesse de Galles, surtout qu'elle ne soit pas intelligente. Elle est puéricultrice, assistante puéricultrice. Donc, elle saura s'occuper des enfants. Elle ne parle pas de langues étrangères. Elle n'a pas fait d'études. Elle est très naïve, elle n'a pas eu d'homme dans sa vie, parce que ça a été certifié par le docteur Pinker, et en plus, on lui a jamais connu de petits amis. Donc c'est une jeune fille, aujourd'hui, ça paraît incroyable quand on voit Kate Middleton, la petite amie du prince Charles, du prince William, qui a eu des petits amis avant, qui en a eu entre-temps, et qui... est allée à l'université et dont on parle comme future reine d'Angleterre, peut-être, et on compare à Dhyana en 1979, la différence est incroyable. Là, on a une fille qui est exceptionnelle dans la mesure où elle ne répond à aucun critère, parce que en 1979, l'Angleterre, car c'est l'Angleterre thatchérienne, conservatrice, c'est l'Angleterre délurée. Et on a la future princesse de Galles, une espèce de sainte Nitouche, qui va se transformer en une femme icône et en un symbole de la mode et symbole de la révolte contre l'establishment et va faire vaciller le trône. C'est incroyable quand on compare ce qui se passe en 97 à sa mort et en 79 quand elle est présentée au public.
Il est vrai aussi que pendant ces trois décennies que vous racontez, il est vrai aussi que c'est une époque extrêmement dure en Angleterre. C'est les grèves de la faim de l'IRA, c'est l'assassinat de Lord Mountbatten qui a été le mentor de Charles, c'est aussi la guerre des Malouines.
C'est le thatchérisme, c'est la grève des mineurs. Et à ce moment-là, les Anglais se rattachent, pendant toute période de crise, à une institution qui est au-dessus de la mêlée, qui crée un consensus national qui échappe à Thatcher, c'est la monarchie. Et on retrouve d'ailleurs ce consensus aujourd'hui, avec la crise économique, au moment où toutes les institutions sont frappées, la justice à cause des bavures, la police à cause de la violence, l'église anglicane, l'église d'État à cause du débat sur l'homosexualité des prêtres, la City à cause de la déroute financière, le gouvernement à cause de l'impopularité de Brown, l'armée, autre institution, l'Irak et l'Afghanistan, qu'est-ce qui reste? Le football et la monarchie. Eh bien, c'était la même chose lors des années Thatcher, au moment du mariage et des premières années du couple Charles-Diana.